BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, nous recevrons Stéphane Morel, c'est le directeur général adjoint du pôle marketing et développement économique de la Fédération française de tennis. L'occasion de faire le point sur la stratégie de développement de la marque Roland-Garros. Valérie Potin, qui signe l'édito de la semaine, reviendra sur une étude qui nous définit un peu plus les relations entre les influenceurs et les consommateurs. Et puis on s'intéressera à la stratégie dans les contenus de Renault en compagnie de Jérôme Doncieux, le CEO de Relax News, et Franck Louis-Victor, le directeur des services connectés de Renault Nissan Mitsubishi. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et pour les news, Marie Valogne. Bonjour Marie.
Bonjour Aurélie.
Alors, à la une cette semaine, Lacoste qui a dévoilé sa nouvelle campagne de publicité baptisée Life is a Beautiful Sport.
Et on y découvre un jeune couple en pleine dispute dans leur appartement, au bord de la rupture. Ils se déchirent et un peu comme dans une métaphore, le monde autour d'eux s'écroule, leur immeuble s'effondre et ils se retrouvent séparés l'un de l'autre, dévorés par les remords. Ils finissent finalement par se retrouver. Un film intense et émouvant, interprété par deux comédiens césarisés et imaginé par BETC.
Et autre opération de communication pour Lacoste cette semaine qui renouvelle sa campagne Save Our Species qu'on avait découvert l'année dernière.
Exactement, à l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité, la marque a dévoilé 10 nouveaux polos en édition limitée. Sur chacun d'entre eux, le crocodile a été remplacé par un animal en voie de disparition. La baleine blanche de l'Atlantique du Nord, le lynx sibérique ou le phoque moine d'Hawaï. Au total, 3520 polos en vente qui correspondent aux 3520 animaux de ces espèces menacées. Une opération en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Et puis, nouveau film publicitaire pour Monoprix cette semaine, un film qui nous présente avec humour la première file d'attente de l'humanité.
Et c'est une file d'hommes préhistoriques. Ils ont les cheveux longs, des peaux de bête sur les épaules et leur hygiène laisse à désirer. Ils font la queue pour avoir un morceau de viande. Alors, l'un d'eux tente de doubler ses congénères. Il se croit plus malin. Il lance un serpent venimeux sur l'un de ses voisins où il se fait passer pour une femme enceinte pour dépasser les autres. Sauf que ces Russes se retournent finalement contre lui et il finit pourchassé par les autres homo sapiens. C'est très drôle. Avec cette campagne, Monoprix veut montrer que faire la queue, c'est de l'histoire ancienne. La marque propose aujourd'hui un service coupe-fil grâce à une application sur smartphone et la campagne est signée Rosa Parks.
Frédéric, j'écoute Marie et en fait, ça me rappelle vaguement le palmarès des Cannes Lyon, mais l'année dernière, c'était une année publicitaire pour rien. Là, on a pris les mêmes et on recommence. Comment ça se passe?
Non, pas du tout, mais c'est vrai que ceux qui ont réussi l'année dernière, ils sont sur un sur une tendance qui leur marche, ils en remettent une couche et puis il faut dire que les bons continuent à faire des bons films. On ne verra pas que mais ça fait une excellente base, oui.
Vos pronostics là?
Oh là, je crois que Lacoste a de très 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 fortes chances pour séduire beaucoup de jurys dans le monde entier et à commencer par Cannes, ouais.
Bon, on s'en reparle fin juin. Merci Marie Valogne.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Stéphane Morel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint du pôle marketing et développement économique de la Fédération française de tennis. À quelques jours de l'ouverture de Roland-Garros, c'est vrai que finalement, vous avez engagé un grand travail de rénovation dont on va voir concrètement les premiers effets là cette saison. C'était pourquoi? C'était parce qu'il fallait aussi dépoussiérer l'image vieillissante du tournoi et des infrastructures, ou je pousse un peu le bouchon?
Oui, voilà, c'est un petit peu péjoratif de prendre ce chemin-là. Non, clairement, Ce grand travail de reconstruction, il est à tout niveau. Il y a la dimension architecturale que tout le monde peut voir. Alors on peut dire que c'est aussi pour faire le lien avec les autres tournois du Grand Chelem. Il y a cette saine concurrence avec l'Australian Open, US Open, Wimbledon. Mais de façon générale, pour nos partenaires, pour le grand public, pour nos clients hospitalités, on se devait de toujours avancer parce que globalement, rester solide sur ses acquis, ça ne suffit pas aujourd'hui dans l'univers du sport et dans l'univers de l'entertainment en général. Donc ça a été enclenché il y a 10 ans maintenant et on commence à en voir les fruits. Et ça s'achèvera fin 2021. Donc là, vous voyez une métamorphose en cours pas achevée, mais déjà très impressionnante.
En tout cas, ça décourage aucun partenaire, apparemment. Au contraire, j'ai vu qu'il y en avait une vingtaine, c'est ça ?
C'est ça.
Donc, dont certains très fidèles, très anciens, comme Peugeot, qui est là depuis 78.
Ouais, il y a même des plus anciens que cela. Il y a Perrier, Perrier, qui vient de re-signer avec nous pour les 5 prochaines années. BNP Paribas, depuis 1973, qui est notre parrain officiel et historique. Et Lacoste aussi, donc pareil. Qui a renouvelé son partenariat, qu'il a même renforcé puisqu'ils étaient partenaires. Ils remplacent également Adidas cette année sur la partie technique. Donc ce sont des partenaires fidèles, français, mais de vrais groupes internationaux comme vous le savez. Et puis on est rejoint par des petits nouveaux, plus internationaux si on peut dire, puisqu'on a désormais un partenaire indien, un partenaire chinois aussi, oui. Donc indien avec Infosys, chinois avec Oppo, donc la marque de téléphone portable concurrente de Huawei qui défraie la chronique en ce moment. Donc pour le coup, ce n'est pas Huawei, c'est Oppo. Et puis on a Rolex aussi cette année, donc société suisse prestigieuse, mais clairement mondiale. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des partenaires prestigieux qui aident à promouvoir notre propre marque, mais ils s'associent aussi à nous pour promouvoir la leur. Donc tout le monde s'entend très bien, ils sont ravis de prendre leur marque dans ce bel écrin. Et pour le coup, j'espère que le grand public, à partir de demain, aura la même sensation et ce même effet waouh que les premiers visiteurs ont en découvrant le stade.
Justement, comment est-ce que vous choisissez vos partenaires ? Alors évidemment, j'imagine qu'il y a une barrière, un ticket d'entrée qui doit être assez élevé, mais est-ce qu'il y a par exemple des marques avec lesquelles, même si elles étaient prêtes à mettre le prix, vous pourriez pas travailler ?
Assurément. Donc par rapport à cela, on part toujours de la marque Roland-Garros et ses valeurs, de ses attributs, le prestige, l'authenticité, donc ce qui fait la renommée de Roland-Garros au niveau mondial. Hein. Et derrière, on va s'associer à des partenaires qui partagent ces mêmes valeurs. Vous parliez d'un ticket d'entrée. Oui, il est clairement élevé. Il est aussi en fonction des bénéfices qui sont octroyés par rapport à ce niveau d'engagement. Mais il est clair que des secteurs d'activité aujourd'hui sont malheureusement bannis par rapport à ce que Roland-Garros représente. Et au-delà des secteurs d'activité, des sociétés qui n'auraient pas une image ou des valeurs, proches de celles de Roland-Garros, ça serait extrêmement compliqué. Je vais prendre un exemple, puisqu'il n'y a pas de jugement de valeur, mais la grande distribution, par exemple, qui peut parrainer certains grands événements. Malheureusement, à Roland-Garros, on a ce qu'on appelle un mismatch. Lidl, par exemple, peut être partenaire de l'euro avec un certain nombre de produits dérivés. Il est clair que, quel que soit le ticket d'entrée, ça ne pourrait pas coller. J'aurais tendance à dire ni pour nous ni pour eux, mais c'est un exemple parmi d'autres. Donc on regarde très intensément, on va dire, le pédigré de nos partenaires potentiels.
Vous gérez la queue des partenaires ? Je veux dire, il y en a trop pour je pense que vous pouvez accepter
Non, c'est beaucoup dire. Mais alors l'idée, c'est on a plusieurs niveaux de partenariat, hein, comme tout grand événement sportif, avec le parrain, les partenaires premium et puis les partenaires officiels et les fournisseurs officiels. Sur les fournisseurs officiels, il n'y a pas de visibilité autour des terrains et dans le stade. Donc là, le nombre est un petit peu plus, ouvert.
Ouvert, ouais.
Par contre, après, globalement, la place est prise. Donc on peut éventuellement renouveler un partenariat. Donc on parlait de Lacoste et tous les autres qui sont là et qui veulent laisser leur place à personne. Et puis parfois, on change et on a un partenaire, sinon plus premium, en tout cas différent. C'est le cas cette année avec Rolex qui remplace Longines. On a très bien travaillé avec Longines ces dernières années, aussi une très belle marque. Cette année, c'est Rolex pour un certain nombre d'années avec nous, donc on est ravis. Donc il n'y a pas la queue, c'est un vrai travail qui est fait aussi par nos équipes pour justement choisir les bons partenaires au bon prix. Et parfois il y a une concurrence, parfois ça se fait, j'allais dire, de gré à gré, c'est au cas par cas.
Je lisais que vous alliez accélérer à l'international. Vous avez notamment là évoqué un partenaire indien, un autre chinois. Je crois que vos trois destinations phares, là, c'est le Brésil, la Chine et l'Inde. Vous voulez accélérer sur ces trois pays. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre ?
Alors, de façon générale, on parlait de l'événement Roland-Garros, du tournoi de tennis. à notre niveau, c'est-à-dire au niveau du marketing et développement économique, on va essayer de raisonner sur quelque chose de différent, c'est-à-dire sur la marque Roland-Garros. Et notre objectif, par rapport à cette marque, c'est clairement de la faire rayonner dans le monde entier, et au-delà de la, j'allais dire, des 15 jours du tournoi et de la porte d'Auteuil. Et donc, par rapport à cela, la stratégie qui a été mise en place pour la faire rayonner, c'était de se dire, OK, cette marque, elle a de vraies valeurs, de solides atouts par rapport à ses dimensions Paris, élégance à la française, etc. Quels sont les pays porteurs, les pays les plus porteurs où justement cette marque résonne? Et on en a choisi trois pour intensifier nos efforts dans chacun de ces pays, hein, donc la Chine, l'Inde, le Brésil, comme vous le signaliez. Et par rapport à cela, on a développé une plateforme qui s'appelle Rendez-vous à Roland-Garros, qui, avec l'accent, peut se comprendre dans tous les pays du monde. Et la façon dont on procède, c'est des clubs Roland-Garros qui répondent à un cahier des charges extrêmement précis au niveau prestige, cours en terre battue, parce qu'il y a cette notion de terre battue qui est très liée à notre tournoi, qui est très spécifique, très unique. Et dans ces clubs Roland-Garros qui essaiment à travers le monde, donc notamment sur ces trois pays phares, vont se dérouler un certain nombre d'événements et d'initiatives labellisées Roland-Garros aussi. Donc on va avoir des Roland-Garros Junior Wildcard Series. Donc pour ça, ce sont les jeunes juniors, les meilleurs juniors des différents pays qui font une compétition de tennis, et les meilleurs d'entre eux, en fait, ont rendez-vous à Roland-Garros pour se qualifier dans le vrai tournoi junior. Donc il y a une émulation, donc il y a cette activité tout au long de l'année qui dépasse les 15 jours. On va aussi avoir le tournoi des Roland-Garros e-series, donc présenté par BNP Paribas qui est notre parrain. Donc là, c'est le e-tennis. On va aller chercher une autre cible, donc les fameux millennials, où on va jouer au tennis à travers un jeu qui s'appelle Tennis World Tour Roland-Garros. Et il y a une compétition avec des vainqueurs nationaux. Alors là, c'est pas 3 pays, mais 12.
Et la finale, grande finale, le même jour, c'est ça?
Se déroule le jour de la grande finale aussi. Ça nous permet de capter un nouveau public, et ça nous permet aussi de capter une vraie attention dans ces pays-là. On a fait les
faire le lien aussi avec le divertissement dont finalement vous parliez tout à l'heure.
Oui, clairement, quand je parle de marque, voilà, on sort de cette dimension tournoi de tennis pur. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de Rolex et d'autres, activer le gros billet qu'elles mettent sur la table sur 2 semaines, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. C'est plus uniquement un endroit de relations publiques où on a une table dans le dos et on se dit que c'est vraiment super d'être au soleil avec un Panama sur la tête. C'est super, mais on va essayer d'aller au-delà, puisque les attentes sont tout autres de la part de nos partenaires et de nos clients.
Merci beaucoup Stéphane Morel. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint pôle marketing et développement économique de la Fédération française de tennis.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, c'est avec Valérie Potin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on parle de la relation entre les marques, les influenceurs, les consommateurs, avec une étude mondiale qui nous est apportée par Rakuten.
Absolument. C'est une étude qui a été réalisée auprès de 3600 acheteurs en ligne. Des acheteurs qui achètent 32% achètent tous les jours via Internet. C'est une étude qui confirme d'un côté, bon, tout un tas de choses qu'on savait déjà, le leadership d'Instagram et de YouTube comme réseau d'influence, ou encore le fait que les influenceurs les plus populaires sont soit des people, soit des gens qui sont issus des mondes du divertissement, de la mode ou de la beauté. Mais elle nous apprend aussi certaines choses, comme le fait que 61% de la population, de cette population qui a été interrogée, agit ou interagit quotidiennement avec un influenceur, et surtout que 80% d'entre eux ont même acheté au moins une fois un achat recommandé par un influenceur en cliquant sur un lien ou une image qui a été proposée par celui-ci. On sait même que 61% de ces personnes seraient prêtes, à cliquer sur un lien sponsorisé. Donc voyons ça, on comprend mieux pourquoi évidemment les influenceurs sont des cibles, des outils stratégiques pour les marques, pour développer leur business, et pourquoi 60% d'entre elles disent qu'elles vont investir de plus en plus dans les années qui viennent.
Donc ça marche.
Alors ça marche, maintenant il faut pas s'emballer non plus, il y a quand même encore un certain nombre de points sur lesquels on peut encore discuter, tout va être affaire de KPI en fait et d'objectifs. Ce qui est clair, c'est que ça valide le rôle de l'influenceur dans le parcours client, le parcours conso. Mais il y a quand même un certain nombre de zones d'ombre, hein, qui existent toujours. Ce que l'étude ne dit pas, mais ce que disent en revanche pratiquement tous les professionnels qu'on peut interroger, c'est que il est aujourd'hui encore impossible d'évaluer avec précision finalement ce que, enfin le poids de l'influenceur dans l'acte d'achat, tout simplement parce que entre l'influenceur, enfin entre le consommateur qui aurait acheté quoi qu'il arrive son produit avec ou sans le code promo, avec ou sans la recommandation, ou entre, enfin ou le je sais pas, par exemple le consommateur qui lui va découvrir peut-être le produit via l'influenceur mais ira l'acheter sur Amazon ou ailleurs, voilà, donc ça devient compliqué. Ce qui est sûr, c'est que le principal usage que vont faire les consommateurs de l'influenceur, eh bien ça va être plutôt la découverte d'un produit ou la découverte d'une marque, même si celle-ci a été officiellement, enfin même si l'influenceur a été officiellement payé par la marque. En fait, la seule exigence du consommateur, c'est que cet influenceur il soit authentique.
Mais justement, Valérie, c'est un peu contradictoire de parler d'authenticité alors qu'on sait que si les influenceurs mettent en avant ces marques, c'est parce qu'ils reçoivent de l'argent en contrepartie. Donc
oui, alors c'est sûr que l'authenticité, c'est une question de point de vue et de définition, on va dire. Si pour certains, dont je fais partie, mais aussi dont font partie la plupart des gens un peu de marketing, l'authenticité, c'est plutôt, on l'associe plutôt à une forme de sincérité, à être soi-même, il apparaît en fait dans cette étude que pour la plupart des gens, l'authenticité, ça va plus être la passion et l'enthousiasme que vont pouvoir communiquer les influenceurs autour de leur message. Donc c'est la raison pour laquelle, hein, pour justement retrouver ce potentiel d'authenticité, on va voir de plus en plus de marques qui vont revoir un peu leur casting d'influenceurs, qui vont tout doucement déporter une partie de leur investissement qui était initialement vers ces méga influenceurs dont on parle, on parle là des influenceurs qui sont au-delà de 100 000 à plusieurs millions d'abonnés, vers les micro-influenceurs, 50 000 abonnés, voire même depuis quelque temps sur les nano-influenceurs qui sont eux à moins de 10 000, voire parfois quelques centaines d'abonnés. Ces nano-influenceurs, ils sont plus petits, ils sont donc plus accessibles financièrement, hein, je veux dire. Ils sont aussi souvent beaucoup plus investis, beaucoup plus enthousiastes, plus engageants avec leur communauté, enfin bref, plus authentiques, comme disent certains.
Merci Valérie.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le Zoom du jour autour des ambitions de Renault dans les contenus. On en parle avec Jérôme Doncieux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes CEO et cofondateur de Relax News, groupe Publicis, et Franck-Louis Victor. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des services connectés pour l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Renault a présenté au dernier mondial de l'automobile un projet de plateforme, comme ça, de contenus éditoriaux embarqués. Quel est le rapport entre l'automobile et les contenus? J'ai un peu du mal à saisir.
Si, c'est... Alors, tout part d'une vision d'entreprise. En l'occurrence, qui est que même si les voitures vont être connectées, électriques, autonomes, en fait, il va falloir la mobilité ne va pas disparaître. Au contraire, elle va même se développer. Le temps passé en sur mobilité va se développer parce que les agglomérations sont de plus en plus grandes, on commute énormément, et il va falloir en fait que les marques se différencient par autre chose justement que le nombre de cylindres, par autre chose que les attributs classiques de l'automobile, et elles vont se distinguer finalement par l'expérience qu'on va délivrer à bord. Et cette expérience, en fait, elle a deux facettes. Première facette, ça va être l'ambiance à bord, donc une certaine notion de peut-être de luxe, de lumière, et on y travaille beaucoup, notamment chez Renault. Et puis l'autre partie, ça va être le contenu. On voit tout le monde sur les trottinettes, dans la rue, avec un casque aux oreilles. On ne lâche plus, en fait, la connexion avec les contenus. Il n'y a pas de raison qu'on la lâche aussi en situation de mobilité. Donc en tant qu'opérateur de mobilité, on doit aussi devenir opérateur de contenu.
Et donc, Jérôme, vous, votre job, c'est d'apporter des contenus originaux, concurrentiels, en quelque sorte.
Ce qui a été annoncé par Thierry Bolloré et Maurice Lévy, c'est que Renault a l'ambition de créer la première plateforme mondiale de contenus en situation de mobilité. Ça, c'est l'objectif. Et par rapport à ça, dans le cadre de l'accord avec Publicis, nous, on est une news tech. Donc on a un savoir-faire d'agence de presse sur le plan stratégique, éditorial évidemment et technologique. Et on va, avec nos cousins de Publicis Sapient, les équipes de Renault, travailler sur effectivement d'abord concevoir et ensuite alimenter, programmer cette plateforme qui sera effectivement une combinaison de contenus premium. Le but c'est vraiment ça, avec à la fois des contenus originaux, des contenus qu'on va aller sourcer et pas mal de choses qu'on va faire aussi avec la tech.
Et c'est quoi les contraintes, en fait, quand on est dans la voiture
La première chose, c'est que quand on dit voiture, service connecté, voiture connectée, voiture autonome, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est la voiture connectée. Ce qui veut dire qu'on va interagir beaucoup à la voix. Et ça, c'est très rapidement. Ce qui veut dire que derrière, il y a toute cette interaction à imaginer entre les personnes qui sont dans la voiture et Et derrière, voilà. Donc si par exemple on va à un rendez-vous, on peut poser des questions à UX, qui est le nom de code du projet. Mm-hmm. Mais si on rentre le soir, on a envie un peu de se couper un peu du monde, d'écouter des contenus, par exemple un podcast qui apporte beaucoup de sérénité ou de l'information sur un sujet.
D'accord, mais Franck-Louis Victor, les podcasts, ça existe déjà. Si je veux de la musique, j'ai Spotify ou Deezer ou n'importe quel. Quel est l'intérêt, la presse, je l'ai déjà, j'ai la radio, pourquoi j'irais utiliser des contenus qui sont spécifiques à ce que fait Renault ?
Alors, en l'occurrence, je vais rebondir déjà sur la question parce qu'elles sont assez liées au final. Vous savez, constraints, en anglais, c'est pas forcément contrainte négative, c'est aussi opportunité.
Oui, oui. Hein,
voilà. Et le fait d'être dans la voiture, justement, elle va apporter, en fait, des opportunités, parce que quand on est dans ce... Dans
on est captif. Hein.
Ouais, non, voilà. On n'a rien d'autre à faire, entre guillemets, sauf conduire, évidemment.
Conduire quand
alors,
même,
comme disait, je dirais, Jérôme, eh ben là, tant qu'elle est connectée, pas complètement encore autonome, il faut quand même conduire un petit peu, mais il n'y a personne pour vous embêter, sauf peut-être les passagers de derrière, qui sont, et puis parfois aussi à droite, il faut l'avouer. Mais on est complètement captif. Donc là, justement, c'est un moment idéal, quelque part, pour créer une relation, une interaction, et puis, en tant que passager, en tant que conducteur, pour apprendre, pour s'informer, pas uniquement cliquer, enfin swiper sur son téléphone et avoir juste les news qui sont les news en général pas les plus intéressantes, qui vous enrichissent pas intellectuellement et culturellement, d'accord ? Donc c'est un moment idéal pour ça. Donc finalement l'intérêt pour l'utilisateur ne va pas être, et pour la marque va pas être de forcément créer de contenu Renault. C'est pas ça. C'est de créer une expérience utilisateur qui va rendre finalement nos clients de façon générale, les clients de mobilité. Alors, je vais pas dire plus intelligent, mais en tout cas d'apprendre des choses, d'approfondir des sujets et de mettre à profit le temps qu'ils passent dans nos véhicules, en fait, pour s'enrichir intellectuellement et culturellement.
Ça veut dire que demain, par exemple, ma nouvelle voiture, elle sera vendue avec un abonnement à une plateforme d'écoute en ligne.
Par exemple. Ouais. Et alors, pour complètement répondre à votre question, aujourd'hui, en fait, vous savez, il y a un principe de base très 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 ancien dans les médias, qui est que les contenus sont silotés. C'est-à-dire qu'il y a une influence en fait du contenant sur les contenus eux-mêmes. Donc vous avez des plateformes de musique, vous avez des plateformes de news, puis vous avez des plateformes de vidéo, et puis vous avez des plateformes bleues, puis des plateformes vertes. Les seuls qui ne font pas ça, qui décilotent, c'est la télé et la radio. Vous avez cité la radio, et on est ici à la télé. Et le problème, c'est que l'expérience de radio dans la voiture, finalement, elle est escalée, c'est-à-dire que elle est linéaire, top-down, donc on peut pas interagir avec. Et typiquement, mes enfants, hein, j'ai des enfants de 2 mois et demi à 19 ans, ils connaissent pas la radio. La radio ne fait plus partie de leur univers, et j'ai eu une remarque amusante d'un ado il y a pas très longtemps. Il dit mais la radio ça sert à rien parce que je peux même pas lui demander ce que je veux. Innocemment, remarque très innocente. Ça veut dire qu'il va falloir réinventer tout ça, hein, et qu'on a une opportunité absolument fantastique en étant livreur, fournisseur de mobilité, de réinventer aussi la façon dont on fournit le contenu.
Et à la fois Renault, à l'Alliance, je crois, a signé un accord avec Google. Il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, pour la fourniture de contenu, quoi. Enfin, c'est du contenu ou c'est du
la techno.
C'est de la techno. Alors,
en fait,
tout ça va marcher ensemble. En gros, ce que fait Publicis, ça va marcher avec sur Android, quoi.
Voilà. Alors, en fait, on a signé effectivement un partenariat avec Google, qui est un fantastique accélérateur pour nous, pour améliorer l'expérience dans nos voitures, notamment en fournissant en fait sur le tableau de bord ce que les gens ont déjà en fait dans leur téléphone.
Ouais.
Ça c'est un super. Enfin, je pense que c'est un choix qui est stratégique. Ça veut dire avoir un environnement qui va venir avec un outil de navigation qui correspond à ce que vous utilisez sur votre téléphone, que vous ayez un iPhone ou d'ailleurs ou autre, ou un Android, un store d'applications d'un des deux leaders mondiaux. Donc voilà, c'est quand même intéressant pour nos clients, c'est un vrai asset. Et puis un certain nombre effectivement de choses autour qui sont liées à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur son téléphone. Voilà. Alors donc c'est vrai que c'est un super support, c'est un tableau, c'est-à-dire une toile vierge d'extrêmement bonne qualité pour nous aller créer une peinture qui va créer de la valeur.
Donc totalement complémentaire.
Jérôme Doncieux, Renault c'est un groupe mondial, donc ça veut dire que votre solution de news, vous allez la décliner en plusieurs langues?
En fait, d'ores et déjà, on produit des contenus en plusieurs langues. On a un partenariat mondial avec l'AFP qui produit quotidiennement en 6 langues. Donc effectivement, c'est un projet mondial. Publicis, c'est un groupe mondial. Donc voilà.
Donc pour finir, là, on parle de contenu exclusivement audio, mais est-ce que à terme, avec les voitures autonomes, on peut aller vers aussi du contenu vidéo? C'est quelque chose que vous envisagez là chez Renault?
Oui, complètement. On est dans une expérience qui est vraiment multimédia au sens étymologique du terme, mondial. Alors je voudrais dire global, hein, c'est le mélange du global, c'est la plateforme est technologiquement globale, mais les contenus vont devoir être pour certains globaux et pour certains locaux.
S'adapter où je suis en fonction de la géolocalisation.
Oui, et puis même et du pays. C'est-à-dire que vous savez, les Indiens, ils aiment bien écouter des choses qui sont plutôt indiennes, les Chinois encore plus, et puis les Occidentaux aussi. Donc voilà, et donc ce côté international, c'est absolument majeur. Et dès le lancement, on va être dans une expérience qui est un peu plus enrichi que l'audio pur. Simplement, on a des contraintes, là pour le coup, oui. Des contraintes, qui sont que tant qu'effectivement je suis au volant, et que je ne suis pas passager, je peux pas effectivement avoir des images très animées, voilà. Même si vous voyez les gens qui jouent dans les, je fais beaucoup de bouchons, vous avez des gens qui regardent des séries Netflix sur leur téléphone, au volant, ce qui est extrêmement dangereux en l'occurrence.
Et interdit.
Et interdit. Donc on va accompagner, en fait, en apportant quelque chose qui est à valeur tout de suite, multimédia et de plus en plus multi au fur et à mesure que les voitures seront autonomes.
Merci beaucoup Franck, Louis, Victor. Je rappelle que vous êtes directeur des services connectés de Renault, Nissan, Mitsubishi et Jérôme Doncieux, CEO et cofondateur de Relax News. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine pour un best-of d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.